I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Ingrid Lukegan, Stéphane Coréard, Corinne Rondeau, pour parler ensemble de rouge, art et utopie au pays des soviets. Franz Marc August Mack, l'aventure du cavalier bleu au musée de l'Orangerie. Tommy Ungerer en attendant au centre culturel irlandais. Un coup de cœur de Stéphane Coréard pour un livre, le cookbook, ça m'étonne pas de lui, de Dorothy Yannon chez JRP Éditions. Mais avant de parcourir le sommaire de cette dispute, nous avons eu envie, nous aussi, de consacrer quelques minutes à Notre-Dame, après cet incendie de lundi soir. Une émission art plastique qui s'intéresse à toutes sortes d'art. Vous devez quand même s'intéresser aussi à cette actualité. Alors, Corinne Rondeau, il paraît que les ventes de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, explosent. Je vous disais à l'instant, Aurélie Kiefer, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire comme pour les attentats. Dès qu'il y a un événement très grave, les gens se rappellent qu'il y a de la lecture qui leur donne de l'histoire et que finalement cet incendie, c'est aussi une manière de se rappeler que le patrimoine, c'est aussi une histoire du bâtiment qui se construit, qui se détruit, qui se reconstruit. Donc le patrimoine, c'est pas que des pierres, c'est aussi ce qu'on en transmet de cette histoire-là. Donc on se rappelle effectivement qu'il y a une histoire et il faut que finalement cet incendie nous fasse découvrir que ce n'est pas un décor, la cathédrale. Et donc en fait, quand j'ai vu l'après-incendie, puisqu'on est toujours effrayé mais aussi fasciné par un incendie, que la flèche de Viollet-le-Duc soit à terre, ce grand trou dans le plafond, c'est une manière de retrouver le ciel et la terre, c'est-à-dire le lieu même des bâtisseurs, des premières pierres. Et en fait, cette circonférence était aussi de se rappeler le patrimoine qui est le nôtre, de notre culture, à savoir que on a construit des villes autour des églises, mais on a construit des églises autour d'un morceau de pain, et que ce morceau de pain, c'est la transmission du partage. Et donc, au-delà de la tristesse d'une architecture qui est en partie détruite, c'est aussi une grande joie de se dire que c'est aussi là que revit et vit toujours le patrimoine, mais aussi la transmission.
Beaucoup d'œuvres, évidemment, aussi concernées par cet incendie. Il y a eu beaucoup de spéculations. Qu'est-ce qui est sauvé? Qu'est-ce qui est détruit? Est-ce qu'on a sauvé, etc. Stéphane Coréard, c'est vrai qu'on s'intéresse, dans une émission de critique d'art plastique, aux chefs-d'œuvre artistiques dans cette cathédrale Notre-Dame.
Oui, c'est vrai que peut-être ce qui a frappé tout de suite et ce qu'on a entendu dans les commentaires, c'est plutôt la dimension à la fois mémorielle, identitaire, je dirais, et aussi religieuse de l'édifice. Peut-être moins son caractère artistique, pourtant c'est évidemment une architecture remarquable. Ce qu'on a découvert, enfin je pense beaucoup de gens aussi ont découvert, c'est que c'est un travail de maîtrise d'art exceptionnel avec la charpente qui, elle, pour le coup, est perdue à tout jamais avec des chaînes du 13e siècle qui parfois avaient été plantées 4 ou 5 siècles avant. Donc ça veut dire qu'il y avait du bois du 8e siècle qui était dans Notre-Dame et qui faisait tenir toujours cet édifice, parce que ce qui est aussi merveilleux, c'est qu'il est tenu malgré tout. Moi, j'étais quand même assez sidéré comme tout le monde quand on voit les images avec ce mikado de bois brûlé qui est d'ailleurs parfaitement agencé. On a l'impression que c'est Paul Virilio qui en personne qui les aurait agencé, ces poutres, et en même temps le toit a remarquablement tenu. Donc ce qui est à l'intérieur de l'édifice, apparemment, évidemment sous réserve d'inventaire plus précis, parce que l'eau a pu abîmer les peintures, les orgues également, mais en tout cas elles sont là, les rosaces ont tenu, ce qui est quand même pour l'instant incroyable, et c'est quand même le génie architectural de ce bâtiment, enfin des gens qui ont construit ce bâtiment depuis le 13e siècle, je trouve, est absolument stupéfiant. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que me sont revenus en mémoire, vous savez Arnaud, comme vous, que je fréquente parfois les réseaux sociaux, et dans ma tweetline, il y a quelques amoureux du patrimoine, des défenseurs du patrimoine, qui passent un peu pour des râleurs toute l'année, parce que ils alertent sur l'état de certains bâtiments, et notamment des églises parisiennes, dans laquelle
se trouve...
Le manque
de fonds publics pour l'entretien de ces bâtiments.
Absolument, dans lesquels se trouvent effectivement beaucoup d'œuvres d'art, des peintures, des sculptures, du mobilier, etc. Et ça m'est quand même aussi revenu en mémoire, parce que Notre-Dame, il faut rappeler qu'on demandait 150 millions d'euros cherchait 150 millions d'euros pour rénover totalement Notre-Dame. Après l'incendie, maintenant, ça va peut-être 1 milliard. Et l'émotion, en même temps, permet de lever ces fonds, ce qui est, et de vendre aussi Notre-Dame de Paris. De la même manière, c'est un peu comme quand on perd un être cher. C'est là, je pense, qu'on revient. Enfin, on se rend compte de l'importance qu'il avait dans nos vies et qu'on a envie de l'honorer en revenant aussi sur nos traces. C'est dommage qu'évidemment qu'il faille des événements pareils pour s'en rappeler.
À propos de finances, Ingrid de Kegan, il y a aussi cette on va dire surenchère. C'est un tout petit peu péjoratif quand je dis, mais c'est vrai qu'il y a eu des annonces de dons de grandes fortunes et voire de grands groupes aussi en France. Alors on se réjouit des dons, hein. C'est vrai que sur le coup j'étais un peu surpris. Alors moi je mets ça, moi je mets le double, toi tu mets le triple, enfin il y a quelque chose de cette course là qui était un peu étrange. Quel regard vous avez porté là-dessus, Ingrid?
Bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on se demande si on est en train de rénover un monument historique qui se construit avec les stigmates et qui peut du coup devenir une espèce de memento mori du 21e siècle si on le garde en l'état, si on vient seulement consolider la charpente pour qu'il puisse rester à l'état auquel il est aujourd'hui. Ou si au contraire on n'est pas en train d'astiquer une espèce de symbole national comme ça extrêmement extrêmement rutilant. Et c'est vrai que cette course au financement fait un peu penser justement à une anecdote que racontait Rem Koolhaas dans New York Délire, où il parlait justement de l'incendie du parc d'attractions Dreamland sur Coney Island, en disant que personne ne l'avait pris au sérieux puisque c'était justement un parc d'attractions et on pensait que c'était encore une attraction. Et donc c'est vrai que là on est dans une surenchère comme ça de sommes qui semblent totalement hallucinantes, où on se demande du coup de quoi il est vraiment question. On a l'impression comme ça d'une déréalisation totale de ce monument qui pourtant est un monument très concret et qui doit garder justement ces stigmates-là qui nous y feront retourner. Et à propos de la question des financements, il y avait évidemment la question de la défiscalisation qui avait été tout de suite abordée. Qui n'aura pas lieu sur ce point-là. Donc c'est vrai que c'est plus une question qu'on peut aborder d'un point de vue symbolique. Plutôt que
par les financements et la défiscalisation. Corinne Rondeau, un dernier mot, on s'interrogeait sur la flèche de Violet de Duc.
Oui.
Bah, est-ce qu'il faut la...
Non, alors moi, c'est un embellissement, c'est pas une construction.
J'entends bien, Violet de Duc, c'est pas...
Oui,
c'est
mais je pense que voilà, c'est peut-être aussi se rappeler de cet événement, peut-être par son absence, ce qui serait pas mal. Et puis pour revenir sur la question des râleurs, il faut aussi se rappeler le nombre d'incendies qu'il y a pendant des travaux.
Bien sûr.
Le grand incendie de Londres, c'était l'échafaudage en bois qui avait fait brûler la cathédrale pendant que tout le monde avait rangé ce qu'on avait de côté. En fait, tout a brûlé. Donc là où on veut mettre de l'argent, il faut se méfier hein, quand même.
Il faut faire attention.
Ouais, il faut se méfier.
Merci.
La dispute. France Culture.
Allez, ouvrons à présent le sommaire prévu de cette dispute avec Rouge. Rouge, art et utopie au pays des soviets, à découvrir jusqu'au 1er juillet au Grand Palais. Les commissaires en sont Nicolas Luigi Gutnikov et Natalia Milozorova. Pardon. Scénographie signée Valentina Dodi et Nicolas Grou, une exposition qui regroupe plus de 400 œuvres, conçues entre 1917, l'année de la Révolution d'octobre, et puis 1953, l'année de la mort de Staline, où l'on verra que si l'Union soviétique n'ont en fait fantasmé intellectuels et militants, c'est sans doute parce qu'elle a su miser sur la production artistique pour construire sa légende, et si les bolcheviks ont un temps encouragé la production artistique, ça a permis de faire fleurir les avant-gardes dans tous les domaines, mais quand même les artistes sont des espèces dangereuses, donc il faut quand même les rattraper, rattraper par le pouvoir politique, les instrumentaliser, c'est quand même mieux, et surtout quand l'instrumentalisation sert à ce que le régime persiste, et que surtout rien ne change. Mais entre-temps, quand même, la Révolution rouge aura offert au monde Rodchenko, Malevitch, Mayakovsky, Shostakovich, Eisenstein, la liste est longue, ça a quand même changé à jamais l'histoire de l'art. On va débattre autour de cette exposition, d'abord un premier tour de table, une phrase exprimant votre sentiment sur cette exposition, Stéphane Coréard.
Ben moi j'ai trouvé que c'était une exposition cynique, remplie de croûte.
Corinne Rondeau, entre deux rires.
Beaucoup mieux.
Ingrid Le Kegan.
C'est la chronique d'une mort annoncée, mais qui n'empêche pas de s'attarder sur les étapes.
En guise d'introduction, on va écouter l'introduction aussi du documentaire réalisé par Pierre-Henri Gibert et Adrien Mina, Rouge, l'art au pays des soviets. C'est une coproduction RMN Grand Palais, INA et Arte. On peut se le procurer en DVD.
Il y a un siècle, la Russie a été l'épicentre de bouleversements qui ont changé le monde. Parallèlement à la révolution bolchévique et l'aventure politique inédite qui a suivi, ce pays a vu apparaître des formes de représentation totalement originales qui ne cessent encore aujourd'hui de fasciner. Comment des artistes en partie isolés ont pu produire des œuvres d'une modernité aussi stupéfiante, faisant table rase du passé, exaltant l'imaginaire, proposant de nouveaux horizons. Les peintres soviétiques ont façonné un idéal et marqué les consciences. Si leurs destins ont souvent été dramatiques, ils ont fait corps avec le pays tout entier. Récit de l'autre révolution russe, la révolution artistique.
Rouge, hein, rouge comme le rouge, hein, c'est le micro qui s'allume dans les studios de radio, il y a du rouge. Il faut être très attentif. Stéphane Coréard, pour nous donner quelques... On a compris votre sentiment que vous avez développé dans un instant, mais là, de façon très objective, très, très descriptive, les partis pris du parcours de l'exposition, s'il vous plaît.
Alors effectivement, c'est peut-être dommage que ce soit moi qui commence, parce que j'ai un point de vue peut-être...
L'aurais-je su avant.
Très négatif sur cette exposition. Ah non, mais je ne vous le dis jamais, vous le savez, vous le découvrez en même temps que les auditeurs.
Voilà.
En fait, effectivement, ce parcours est finalement linéaire, chronologique, on va dire, avec deux grandes parties, elles-mêmes éclatées en plein de une myriade de salles. La première est intitulée « L'art dans la vie, le productivisme » et la deuxième « La vie rêvée dans l'art, vers le réalisme socialiste ». Donc, en réalité, la première partie est essentiellement consacrée aux avant-gardes, si on veut dire les choses un petit peu schématiquement, la deuxième au réalisme socialiste. Donc, dans cette première partie, ces avant-gardes qui culminent évidemment avec le suprématisme, on retrouve effectivement les grands noms que vous avez cités. Vous n'avez pas cité les grands noms des artistes réalistes socialistes, on en parlera pourtant plus viendra. Tard.
Parce que
les croûtes sont plutôt là, je rassure tout de suite nos auditeurs. Donc au départ, on a cet échantillonnage qui est représentatif, mais finalement assez maigre. On a vu beaucoup quand même d'avant-garde russe ces dernières années à Paris et partout. Donc là, les grands noms y sont, avec des œuvres significatives, mais en général pas plus que ça. Vous avez cité Rodchenko, Malevitch, Lissitsky, Tatlin. Peu de rareté, peu de chefs-d'œuvre, quand même quelques-uns que je sauverai dans la liste. Il y a le monochrome rouge.
Dans un deuxième temps, puisque là on est dans le descriptif,
d'accord,
mon cher Stéphane.
D'accord, uniquement du parcours.
Et la deuxième partie, donc.
Et ben, la deuxième partie,
on arrive dans
on
la
arrive au réalisme socialiste, et c'est là où.
L'instrumentalisation.
Non. Oui, enfin, c'est-à-dire que une chercheuse du CNRS, Cécile Pichon-Bonin, définit dans le catalogue le nouveau réalisme en disant que le réalisme socialiste, pardon, en disant qu'il peut se définir
le lapsus est bon.
Dans les années 30, surtout en creux. Et voilà comment elle le définit, le réalisme socialiste. Il exclut toute forme d'abstraction et la critique condamne aussi les tendances expressionnistes et cubo-futuristes. Donc là déjà, si on est dans les années 30 et qu'on exclut l'abstraction, l'expressionnisme et le cubo-futurisme, il reste pas grand-chose. Et elle ajoute, ce que j'ai trouvé un peu curieux, le réalisme dominant déjà largement la scène artistique des années 20, comme ailleurs en Europe, il s'agit davantage d'entériner une situation existante et de clore les débats. En fait, elle dit, en gros, il n'y a plus d'avant-garde, donc de toute façon, c'est du réalisme, donc du réalisme socialiste. En fait, comme si on pouvait pas préférer le réalisme d'un Picasso à celui de Dei Neka, par exemple, que j'ai découvert dans l'exposition.
Corinne Rondeau, regard sur la scénographie, la façon dont sont présentées, parce que les différentes formes d'art, hein, j'ai pas énoncé, mais il n'y a pas que de la peinture, de la photographie, du graphisme, de l'architecture, de la musique, il y a beaucoup de choses à voir.
Oui, il y a beaucoup
cinéma.
De choses. Il y a un premier niveau. Alors, c'est le Grand Palais, il faut quand même se dire que le Grand Palais, c'est toujours grand public. Le Grand Palais, c'est quand même une superficie considérable. Et là, pour le coup, je trouve que les 40 ans de la Révolution 1917 et 40 ans de 1957, finalement, ça remplit mieux que le siècle de Rodin, je dois dire. Et que le premier temps donc de la circulation gens, ce sont, comme l'a dit rapidement, les avant-gardes. Et la scéno est assez aérée, puisqu'en fait, effectivement, les supports qui sont présentés, qui vont de la vaisselle jusqu'à la reconstitution du Club des ouvriers de Rodchenko, mais aussi un certain nombre de maquettes de théâtre, de photomontage, et jusqu'au bout du rez-de-chaussée, le cinéma des années 20-30. Il a une circulation qui est assez agréable, je trouve, et qui permet aussi de voir que ça recherche un autre espace, la Révolution, et même artistique. Et puis quand on prend le grand escalier, on a ce mural formidable de Clusis, qui est un photomural, donc c'est une reproduction. Alors les photomurales à l'époque étaient gigantesques. Là, on a un aperçu, puisqu'il y a une petite silhouette qui est en bas de cette photo du photomural, on va dire. Donc j'ai beaucoup aimé cette manière d'être accompagné, et puis on retombe en symétrie au-dessus du cinéma 30-40 qu'il a d'un coup. On est réalisme socialiste, narratif.
Avec tous les sosies de Lénine et Staline.
Non, alors ça c'est au fond, c'est à la fin. Mais c'est plutôt des films où ce sont des récits sur le jeune soviétique.
Oui, les fresques édifiantes.
Et puis ensuite, on a une scénographie, là, pour le coup, très classique, qui enchaîne les salles les unes après les autres. Et puis, comme l'a dit effectivement Stéphane, il y a beaucoup de croutasses, mais c'est le réalisme socialiste qui le veut. Donc, je dirais qu'elle a la sobriété de son temps, cette exposition, et que je trouve que le parcours est parfaitement ordonné, clair, et que dans ce cadre-là, ce qu'on a, effectivement, il n'y a pas beaucoup de chefs-d'œuvre, il faut s'en contenter. C'est un beau trajet entre la révolution artistique, on va dire, et son opposition, qui est l'idéologie soviétique. Ça, je trouve ça plutôt bien fait.
Je vous rejoins pleinement, Corinne Rondeau, sur le regard sur cette exposition. Ingrid Lukegan, alors.
Moi, je suis plutôt d'accord aussi, à savoir que c'est une belle exposition de culture visuelle. Il ne faut pas forcément s'y aller pour s'y attendre à y trouver des chefs-d'œuvre, mais on va avoir une démonstration tout à fait honnête de ce qui a pu être produit à cette période-là. Sur le cynisme, je ne serais pas tout à fait d'accord, puisqu'on voit quand même certaines figures d'artistes qui résistent. On voit dans la seconde partie notamment Rodchenko qui est toujours là, sa femme aussi, Varvara Stepanova. Donc on voit comme ça des figures d'artistes qui arrivent quand même à maintenir une certaine singularité. Le second point intéressant, c'est qu'on n'oppose jamais l'art d'État à la création libre, puisque même la première partie s'ouvre sur les affiches de propagande, qui sont les fenêtres Rosta, qui ont été commandées par l'État entre 1919 et 1922 pour mobiliser une population qui était encore largement analphabète. Donc on voit Mayakovsky, c'est la première œuvre de l'expo, qui réalise en 1920 un pochoir sur papier qui était tiré à entre 100 et 300 exemplaires et qui effectivement est une espèce de démonstration comme ça très didactique où la vase bourgeoise dans laquelle il ne faut pas que le camarade tombe est représentée par un crapaud notamment. Et le communisme par un drapeau rouge. Mais voilà, ce qui m'a semblé assez fin, c'est de savoir distinguer à l'intérieur de l'art d'État. Et ensuite, pour le côté culture visuelle, on a des objets qui sont absolument intéressants et qu'on n'a jamais vus, notamment des assiettes en porcelaine qui nous intiment de laisser la classe bourgeoise périr et le capital disparaître, qui ont été réalisées en 1920. Ou des tissus aussi souvent anonymes mais qui sont absolument fabuleux puisqu'on a des dessous en satin grève ou un tissu pour une robe mécanisation agricole.
Stéphane Corrère, qu'est-ce que vous a pas plu alors cette exposition rouge qui nous a plutôt réjoui?
Ce que j'ai trouvé cynique, c'est pas du tout les artistes, pas du tout. C'est vraiment l'absence de toute perspective historique dans l'exposition. C'est-à-dire que l'exposition aurait pu être faite en 1953 quasiment de manière identique. Il n'y a pas aucun élément de contextualisation. Il n'y a absolument rien sur les millions de morts en URSS dans cette période. Il n'y a rien. Il y a quasiment rien sur le procès.
Parce qu'entre-temps, quand même, la nouvelle s'est propagée. Vous savez depuis 1953.
Oui, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a un grand écart entre le catalogue qui est plus clair sur ces questions, même si, et je suis désolé, les cartels, il n'y a aucun texte qui fasse mention de rien. Je sais que Total est le mécène de l'exposition, que c'est fait avec les musées russes d'État et que sans doute le rapport à la Révolution et à sa commémoration est complexe, et je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de parler trop d'un certain nombre de faits historiques, mais il me semble qu'aujourd'hui, quand on fait une exposition sur ça, j'ai envie de me dire, mais est-ce que la prochaine exposition qu'ils vont nous faire, ça va être vous voyez, la création sous le art et utopie sous le Troisième Reich. Je veux dire, si on faisait la même exposition avec l'art nazi, je pense que ça ferait un scandale. Alors, je ne fais pas un parallèle absolu entre le nazisme et le communisme, mais je suis quand même très surpris de l'absence de recul et de perspective historique de l'exposition. De nouveau, le catalogue...
Non, mais j'ai pas dû être assez attentif au cartel, parce qu'effectivement, j'ai pas fait attention à ça.
Mais parce que sans doute, effectivement, vous partez du principe que c'est une histoire qui est connue, mais ici, on part du principe que rien n'est forcément connu. Et je trouve que, si vous voulez, je crois que j'ai déjà cité ici la phrase de Godard, la démocratie, c'est un quart d'heure pour les juifs et un quart d'heure pour Hitler. Là, j'ai l'impression que c'est 100 mètres de Simès pour les avant-gardes et 1000 mètres pour les croutasses. Parce que, quand même, le problème, c'est qu'ils gagnent forcément par chaos. Parce que, si vous voulez, globalement, toutes les œuvres intéressantes
au niveau du format
dépassent pas 50 cm, alors que les croûtes réalistes socialistes, elles font couramment 2-3 mètres. Et je pense qu'il faut parfois rester simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaise raison de montrer une bonne œuvre, mais il n'y a pas non plus de bonne raison de montrer autant de mauvaises œuvres. Je pense qu'on aurait compris avec beaucoup moins. Et je pense que cette espèce de relativisme, moi, me gêne. Et je trouve que c'est pas parce que c'était une réalité de la production de l'époque qu'on doit nous l'infliger aujourd'hui.
Une grille de Kagan.
Bah moi je dirais justement que pour une fois on montre la réalité de la production sous l'Empire soviétique comme elle était, c'est-à-dire qu'on ne sort pas uniquement les chefs-d'œuvre, parce que j'ai eu l'impression que toutes les expositions qui commémoraient la révolution russe de 1917 montraient au contraire que des chefs-d'œuvre, comme si les arts avaient été totalement libérés à l'époque. Et donc là on arrive un peu plus justement à relativiser, et il me semble que c'est assez important que chacun puisse justement se faire sa propre opinion.
Corinne Rondeau.
Alors, je partage le point de vue de Stéphane, mais par ailleurs, je trouve aussi intéressant, de toute façon, c'est un mal global qu'on a dans les expositions, ce relativisme. Quand c'est trop compliqué d'ailleurs, oh là là, c'est fait pour ceux qui veulent vraiment se mettre des choses dans la tête. Alors moi, ce que j'ai plutôt apprécié dans cette exposition, c'est que, déjà, il y a une erreur. C'est-à-dire que la révolution artistique, c'est le suprématisme, et le suprématisme, c'est avant la révolution. Il n'y a pas de suprématisme, c'est un après du suprématisme, on va dire, quand il y a Malevitch. Donc ça, c'est intéressant, parce que d'un coup, quand on a un peu ce retour en arrière purement artistique, on se dit... Aïe, aïe, problème. C'est-à-dire que vraiment, commençant par l'idée de la révolution, c'est-à-dire le politique entraîne la révolution artistique, c'est faux.
On peut dire que ça parle de 1905, si on veut jouer sur l'historicité des mouvements. Bah, sur la révolution ratée de 1905.
Ah oui, non, mais je dirais...
C'était lent, là, à ce moment-là.
Si je me contente vraiment
l'exposition,
de la
en
forme...
En effet, c'est un anachronisme.
Je peux me dire qu'effectivement, on démarre au point... qui est celui dit du politique. Et c'est déjà une erreur. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, et ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans l'exposition, c'est comment, effectivement, la question de... ces deux visions du collectif, en fait. C'est la vision du collectif artistique, puisque les artistes de la révolution, de ce début de révolution du peuple russe, bolchevique, c'est justement comment travailler ensemble, c'est-à-dire un homme au milieu des autres, l'homme à la caméra de Vertov, c'est ça, avec sa caméra, c'est une grande symphonie dans laquelle il se tient au milieu des autres, et vous avez ensuite la vision collective, propagandiste, du culte de la personnalité, c'est-à-dire à partir de 30, 29-34, Staline, il a le pouvoir, et là, on passe à l'étage, et donc il y a un retournement qui réhabilite finalement l'idée du collectif sur une vision tout à fait commune, c'est-à-dire nous sommes face à la consommation d'icônes. Lénine, Staline...
Construction d'icônes même.
Oui, une construction. Mais alors, ce mot de construction, c'est constructivisme pour moi. Et pour le coup, ces hommes du rez-de-chaussée, ce sont des grands constructeurs. Ce sont des gens qui vont produire, effectivement, un art pour la rue. Hein. Je ne sais plus qui l'a écrit. Et d'ailleurs, j'ai oublié ma référence. Donc, c'est pas grave. Où, effectivement, on peut inscrire sur les toits des villes, au coin des rues, sur les palissades. Et jusqu'au ciel, Tatlin, sa tour de la Troisième Internationale, c'était pour projeter des informations sur les nuages. Donc, Il y a cette idée de fabriquer du fait. D'ailleurs, on appelle ça la factographie, hein, qui est pris et dans laquelle le photomontage russe est pris. Donc, je trouve que là, d'un coup, il y a une vraie inversion du rapport à la fabrication qui est autre. Et là, c'est le retour à la surface, au plan, c'est-à-dire au tableau de Chevalier. On se dit, mais c'est le délire. Hein. Voilà, j'en ai fini.
Ingrid Lukegaard.
Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a une lecture vraiment historique et non pas idéalisée comme ça, téléologique de certains grands artistes qui sont seulement présents dans l'expo en tant qu'ils ont participé à cette opération d'État. Donc c'est le cas par exemple pour Malevitch, dont on découvre des œuvres figuratives que moi je connaissais pas du tout, dont une petite encre brune du Centre Pompidou de 31, qui représente les Aveniriens et qui sont donc cinq personnages avec un symbole de faucille et marteau sur le ventre. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a quand même une lecture assez orientée de ces grands artistes, puisque dans les musées occidentaux, on ne montre que ce qui est sorti des musées russes de l'époque. Hein. Donc on se rend compte qu'ils travaillaient quand même aussi pour l'État et que certains ont été obligés d'infléchir leur production et qui sont des choses dont on se rendait quand même pas forcément compte jusqu'à maintenant.
Stéphane Correa, pour terminer sur le sujet.
Oui, je pense que moi je suis pas contre qu'on monte des croûtes à la rigueur, mais au moins qu'on les déconstruise. Il y a juste un tableau où on nous montre comment on a effacé quelqu'un. Le peintre a dû effacer quelqu'un des années après parce que Staline voulait plus qu'il apparaisse. Mais ce travail, n'est pas fait. D'ailleurs, la dernière salle s'appelle Histoire et mythification, et on ne parle pas de mystification. Et ça aurait été à mon avis beaucoup plus intéressant d'aller jusque là. Ce relativisme, pour moi, c'est la même chose que quand les pompiers ont été montrés en majesté à Orsay, à la réouverture d'Orsay, qui d'ailleurs était pendant la Perestroïka. Bizarrement, est mis au même niveau que les impressionnistes. Juste, je voudrais citer, parce qu'il y a deux tableaux absolument magnifiques d'un architecte, Ivan Leonidov, qui sont des tableaux vers 35-38 sur des panneaux de bois, qui sont, on dirait, des miniatures enluminées. C'est absolument magique, surréaliste, de l'architecture fantasmagorique, magnifique.
Rouge, allez voir par vous-même cette exposition « Art et utopie au pays des soviets ». C'est jusqu'au 1er juillet au Grand Palais. Et puis lecture, en effet, recommandée du catalogue, pour avoir plus de contextualisation. Catalogue, très beau catalogue d'ailleurs, pas seulement sur le fond, mais la forme, édité par la RMN Grand Palais. À suivre dans la dispute, Franz Marc, August Macke, Tommy Ungerer et Dorothy Yannon.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée aux arts plastiques avec Franz Marc et August Macke, l'aventure du Cavalier Bleu, c'est jusqu'au 10 juillet au musée de l'Orangerie à Paris. La commissaire générale est Cécile Debray, la commissaire Sarah Aymat et la conseillère scientifique Viviane Ellicott-Barnett. Comme son titre l'indique, l'exposition consacrée à ces deux figures importantes de l'expressionnisme allemand et du mouvement Der Blaureiter, je suis au maximum de ma germanophonie, donc le Cavalier Bleu. On va donc découvrir le travail de Franz Marc et August Macke. L'un est mort en 1916, l'autre en 1914. Petit rappel historique, Corinne Rondeau, pour indiquer à quelle époque donc, et dans quel esprit ce Cavalier Bleu s'origine.
À Munich ? Entre d'abord, on va dire, on va boire un café entre Kandinsky et Franz Marc, où l'un aime les chevaux, l'autre les cavaliers, et tous les deux le bleu. C'est une citation dans l'exposition, et c'est une anecdote donc de Kandinsky, c'est 1911, et puis la rencontre Franz Marc et August Mac, ouais, qui est de 1900.
À fond dans mon allemand, mais pas assez.
1910. Et je dirais que l'almanach scelle finalement le Der Blaureiter.
Vous non plus.
Oui, mais c'est bon. Le Blau.
Blau. C'est comme August, en fait.
Qui est donc, c'est une édition d'artistes. Alors, le Cavalier Bleu, c'est pas un mouvement, c'est pas un groupe. C'est, voilà, un moment.
Un état d'esprit.
Qui ne dure pas très longtemps, d'ailleurs. Une année ou deux, on va dire, plutôt deux ans. Mais qui laisse des traces assez fortes dans le pays. notamment parce qu'en fait, August Mack et Franz Marc vont être un peu des héritiers d'une cartographie européenne où la France, les artistes français sont très importants. Donc il y a post-impressionnisme et Cézanne pour August Mack. Et puis il y a Gauguin et Van Gogh pour Franz Marc, qui est le plus âgé des deux. Et donc dans ce grand mouvement, cubisme, futurisme, orphisme, abstraction, qu'on retrouve le développement du travail de ces deux garçons formidables
dont on va parler dans cette exposition. Premier tour de table sur cette exposition et sur votre sentiment. Bah tiens, Corinne Rondeau, puisque vous y aviez la parole.
Mon sentiment, c'est une. Je trouve que cette exposition, alors d'abord, on les connaît peu. Je trouve que elle est d'une très grande sobriété. Les cimaises sont blanches, à l'exception d'une partie où il y a justement des cavaliers bleus. Et je trouve que c'est très, 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 très. Je trouve ça très bien. Les échos, les résonances, c'est très bien.
Ingrid Kegad, plus rapidement.
C'est une belle aventure humaine et l'idée d'une avant-garde européenne avant qu'elle ne soit fauchée par la Première Guerre mondiale.
Stéphane Coréard.
Oui, c'est un face-à-face émouvant, passionnant même, mais aussi un peu frustrant.
Après cette riche et nécessaire introduction historique par Corinne Rondeau, Ingrid Lukegad, le parcours de l'exposition dans ses grandes lignes, là encore.
Là, on est sur une période très courte qui commence par leur rencontre en 1910 et qui se finit avec la Première Guerre mondiale en 1914, date à laquelle ils sont tous les deux mobilisés, et qui se termine même un peu avant, puisque à partir de 1913, ils ne se voient plus. Donc l'exposition commence et met l'accent vraiment sur une amitié de peintre. Ils se rencontrent en 1910, ils ont 7 ans d'écart.
Et l'un a 23 ans et donc l'autre, logiquement, en a 30.
et donc, on va vraiment mettre l'accent sur le facteur humain. Donc, on a vraiment une mise en regard des deux œuvres avec leurs influences respectives. Et c'est là qu'on voit que c'est un corpus qui est peu connu en France, puisque tout au long de l'exposition, on va avoir un vrai effort de recontextualisation qui intervient dès le premier mur. On nous présente un peu les travaux de jeunesse de chacun, puisque la première toile qu'on voit de Macke, qui est un jardin en fleurs de 1911, va être mise en regard avec une toile de Cézanne, qui va être une nature morte, qui s'appelle Vase paillé, sucrier et pomme de 1890. Le parcours se construit vraiment plutôt sur une présentation de l'œuvre de chacun, puisqu'on peut le faire sur cette période, plutôt qu'un effort de parti pris ou un effort beaucoup plus théorique, avec au milieu la parenthèse consacrée à l'almanach du Plauwerreiter et qui montre des échanges épistolaires florissants dans cette Europe en train de se former. Et l'idée de l'Europe, c'est un peu ce qu'on peut en retenir aussi, quoi. C'est vraiment une très belle utopie à une époque où on parle beaucoup d'Europe et qui montre cette aventure humaine d'échange.
Stéphane Correa, alors, entrons dans le commentaire, dans le vif du commentaire.
Je suis tout à fait d'accord, l'exposition est vraiment magnifique, très intéressante. Ce que je trouvais frustrant, c'est pas l'exposition elle-même, c'est finalement ses parcours artistiques extrêmement courts, 5 ans de travail. Et d'ailleurs, j'ai noté que dans le catalogue, la conseillère scientifique, Viviane Endicott-Barnett, dit « Tous deux trouveront tragiquement la mort avant même d'avoir atteint leur maturité artistique ». C'est curieux finalement. On se dit mais pourquoi faire une exposition sur des artistes dont même les commissaires pensent qu'ils n'ont pas atteint leur maturité artistique. En fait, c'est la faiblesse, mais c'est aussi la force de l'exposition. C'est la faiblesse dans un premier temps, peut-être parce que finalement cette exposition rassemble des œuvres qui sont demeurées à jamais naissantes et qui étaient très malléables, finalement très, comme l'a dit Ingrid, prises dans l'art européen et notamment dans l'art français de leur temps par leurs aînés immédiats. Et d'ailleurs, on voit, c'est très passionnant leur visite à Robert Delaunay en 1912 à Paris et l'impact immédiat sur leur travail. Donc on voit bien que c'est des œuvres encore très malléables.
Mais ils sont très jeunes. Macke meurt à 27 ans.
Oui, et puis Franz Marc, qui est plus âgé, a commencé la peinture tard, puisqu'il a d'abord été philosophe, pasteur, pensé être attiré par la philosophie et le pastorat. Et donc, finalement, ils sont tous les deux de très jeunes artistes. Mais en même temps, c'est la grande force de l'exposition, je trouve, parce qu'elle est centrée sur vraiment l'émergence et la construction de deux individualités, de deux talents qui sont d'ailleurs assez différents, je pense qu'on pourra en parler, c'est-à-dire en même temps deux grands amis très proches, mais en même temps en constant dialogue, qui sont complètement agité, traversé par l'effervescence d'une période picturale qui, faut dire, est d'une incroyable richesse.
Oui, oui, ça va.
Puisque
oui,
fauvisme 1903, l'expressionnisme allemand, Die Brücke, c'est 1905, le cubisme 1907, le futurisme 1909, l'orphisme, on l'a vu, 1912, l'abstraction 1913, et en fait, en cette petite poignée d'années, Mac et Marc.
On continue sur Dada et sur.
Oui, alors ça, c'est moins leur truc. Oui.
Non, mais.
Moins,
bien sûr, non, mais deux, bien je sûr, parle de l'époque.
Ah oui, non,
l'époque,
en disant,
j'avais compris.
Non, mais en disant,
l'époque est dingue.
Alors eux, c'est le versant pictural, ce qui est aussi très beau, je trouve, justement, dans ce dialogue, et très sensible, et c'est pour ça que je disais que c'était même émouvant, c'est que c'est d'abord un coup de foudre artistique, ce qui est finalement assez rare dans l'histoire des avant-gardes, c'est-à-dire que Macke a découvert les premières œuvres de Marc avant même sa première exposition chez le marchand de Munich, Brackel, qui va l'exposer. Ce sont des lithographies de chevaux, d'ours, de baigneuses, dont certaines d'ailleurs sont dans l'exposition, et il demande l'adresse de Franz Marc, parce qu'il est saisi par ce travail, et il va lui rendre visite le jour même, et c'est ça le début en fait de l'histoire, le lendemain.
Corinne Rondeau, pourquoi cette exposition est importante pour vous et Rue?
Elle est importante à cause justement de cette naissance et de ce regard qui est toujours en train de bouger entre ce qu'on va faire sur la toile et finalement tout ce tourbillon. Je veux dire, c'est vraiment une peinture qui elle est prise par des bourrasques en permanence. D'ailleurs, il y a un petit tableau qui commence qui est absolument merveilleux de Franz Marc, qui est un petit tableau de linge qui est suspendu au vent ou sur un fil. J'ai trouvé c'est vraiment la peinture en train d'être dans un mouvement. Je trouvais ça, pour l'introduction de l'exposition, finalement, quand on arrive sur la gauche, je trouvais ça à la fin de l'exposition l'endroit juste, finalement, et la nécessité de le mettre. Et puis c'est toujours aussi cette manière dont, en fait, ils vont traverser, et c'est vrai que Delaunay est invasif dans leur travail, cette manière de travailler la sensibilité colorique, c'est-à-dire de travailler la question de la couleur. Ça veut dire aussi un langage lumineux, et on va voir comment ils le traversent tous les deux de manière très différente, finalement. Et que Franz Marc va tenir toujours le vert et le blanc, qui sont très importants chez lui, que même si ça passe par du fauvisme, il va venir déconstruire quand même sa peinture, mais il va retourner toujours vers de la figuration avec une force très très grande. Je pense par exemple la peur du lièvre, et à la fin on a les loups, on a l'impression que la peur passe à la terreur de la guerre, puisque c'est la guerre des Balkans qui est en jeu. Et puis de l'autre, on voit Auguste Mack, qui lui travaille beaucoup plus vers un formalisme, et c'est un travail où on voit une transparence être agi. Enfin, on voit bien qu'il y a le commun les sépare. C'est ça qui est beau, je trouve, vraiment, et à travers les mêmes matières qu'il regarde.
Ingrid Le Kegan.
C'est vrai que l'idée d'agitation qui est revenue dans chacun de vos interventions me paraît absolument primordiale. Puisqu'au début, on est un peu étonné parce qu'on comprend pas trop où l'exposition veut en venir, puisque c'est une période trop courte pour avoir une vraie démonstration historique, et leur parcours eux-mêmes, en fait, sont toujours en dents de scie. Donc on pense qu'on va avoir la démonstration d'un trajet vers l'abstraction, mais qui au final n'a jamais lieu. Puisque Macke est peut-être celui qui va peindre le plus tôt et avec le plus d'enthousiasme des toiles abstraites, effectivement suite à sa visite à Delaunay. En 1913, il peint des carreaux colorés et des formes colorées, inspirés de l'orphisme. Mais ensuite, il va repartir en Tunisie avec Lé, et là, il va se remettre à faire des croquis. Marc, de son côté, c'est la même chose. En 1913, on voit apparaître chez lui une petite composition avec vraiment centrée sur l'étude de la couleur. Mais tout de suite après, au même moment, il va peindre un paysage avec une maison et deux vaches qui reprend les principes de sa composition abstraite, mais en y insérant ces fameux animaux. Donc c'est vrai qu'on reste un peu sur notre forme, mais au final, c'est une exposition qui montre à un moment d'effervescence où on n'a pas le temps de rentrer dans un propos justement démonstratif et didactique, et qui est absolument réjouissante.
Stéphane Correa.
Oui, ce qui est aussi merveilleusement intéressant, je trouve, c'est ces expositions qui permettent aussi d'affiner ou de changer de point de vue sur un artiste. On connaissait de Franz Marc beaucoup ses chevaux, comme ça, ses formes rondes, etc., qu'on imaginait un peu répétitif, parce que c'est ce qu'on voit en général dans des expositions de groupe,
notamment sur Cavalier Bleu. Ouais.
Et en réalité, on découvre, à mon avis, c'est quand même le plus mature des deux. Bon, il est légèrement plus âgé, mais c'est aussi une peinture beaucoup plus personnelle, je trouve. Et on voit effectivement ce travail sur l'animalité, l'animisme, l'animalisation de l'art, comme lui l'appelle. Effectivement, Corinne Rondeau a parlé de ces deux tableaux absolument sidérants, La peur du lièvre, qui est surmontée par un chien, et les loups de la guerre des Balkans, qui sont deux tableaux stupéfiants, très intenses, très dramatiques, de Franz Marc. J'ai noté cette phrase dans une lettre à son éditeur de 1910. Franz Marc dit « Je ne vois pas de meilleur moyen de parvenir à l'animalisation de l'art, comme il me plairait de l'appeler, que la peinture, et c'est pourquoi je la pratique chez un Van Gogh ou un Signac. Tout est devenu animal, l'air, la barque qui flotte sur l'eau, et surtout la peinture elle-même. » Et je voudrais juste dire trois petites choses qui sont absolument remarquables.
Vous avez un coup de cœur qui va suivre, donc on va pas vous en écouter pendant 10 minutes, Stéphane Correa.
Non, je voudrais juste dire, non, parce que c'est pas souvent le cas, et je tiens vraiment à le dire parce que c'est un travail remarquable des commissaires et sans doute aussi de la scénographe. Un choix restreint mais très pertinent de documents et d'œuvres sur papier, de gravures. Il y en a peu, mais à chaque fois extrêmement bien choisis, qui font progresser l'exposition de manière décisive. Pareil pour les œuvres d'autres artistes. Il y a un tableau de Denis Rousseau, Cézanne, Kandinsky. À chaque fois aussi des choix remarquable. Ça, et c'est pas du tout pour étoffer, pour faire des noms.
Ça fait un sens merveilleux. L'accrochage est dingue aussi.
Absolument. Et je tiens à dire aussi que l'exposition rentre magnifiquement en résonance avec les collections de ce merveilleux musée qu'est l'Orangerie, de la donation Walter Guillaume, qui a organisé autour de salles monographiques absolument époustouflantes de Soutine, de Picasso, de Cézanne. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux d'avoir cette exposition temporaire dans à l'intérieur de ce musée.
Et comme on va vous entendre à nouveau, Corinne Rondeau, vous avez le droit de dire quelques mots de plus sur cette exposition.
Non, je trouve que l'accrochage est d'une justesse qui est assez rare. Et c'est un grand plaisir parce que l'économie qui est mise dans cet exercice rend justice à ce travail de ces deux jeunes artistes dont on l'a dit, l'amitié est forte autant que leur carrière est courte. Et je trouve que vraiment cette idée du sauvage malgré moi de Gauguin, elle est là parce que c'est une peinture d'ailleurs, même si c'est au milieu de tout ce qu'on connaît en Europe.
Franz Marc et Auguste Mac, l'aventure du cavalier bleu. C'est jusqu'au 10 juillet au musée de l'Orangerie. Puis donc il y a un catalogue également, un grand catalogue, coédité par le musée de l'Orangerie et les éditions Azan. Le coup de cœur ce soir suite de Stéphane Correa pour un livre dont vous allez nous parler.
Un livre de cuisine, effectivement ça ne vous étonnait pas Arnaud parce que vous me connaissez bien. C'est effectivement un livre de Dorothy Yannon, Cookbook, qui rentre dans cette niche petite mais ô combien remarquable des livres de cuisine artistique qui ont été parfois écrits par des femmes. Il y a le livre de cuisine d'Alice Bettoclas où elle raconte les recettes qu'elle concoctait avec Gertrude Stein. Mais il y a aussi Marinetti qui a écrit la cuisine futuriste et aussi parfois des hommes en hommage à leurs femmes. Il y a les dîners de gala, le livre de Salvador Dali que je vous recommande de 72. Celui-là est l'œuvre de Dorothy Yannon, qui est née en 1933, toujours bien vivante, heureusement. C'est une artiste fluxus américaine, mais qui vit en Europe depuis très longtemps, depuis 67. Elle était très proche de Robert Filliou et de Georges Brecht, notamment. Et surtout, elle est connue pour le travail qu'elle a fait avec Dieter Roth, qui était son compagnon, entre 67 et 74, période à laquelle elle a rédigé ce livre de recettes, puisque ça date de 68-69. C'est un fac-similé, sublimement édité, imprimé, avec une nouvelle jaquette faite par l'artiste, un grand format, 60 pages intérieures, tout en anglais, 30 €. D'après donc un original au feutre, qui est très représentatif de la manière de l'artiste, qu'on pourrait qualifier pour nos auditeurs de Niki de Saint-Phal de Fluxus. On va dire, elle partage avec Niki de Saint-Phal effectivement un univers coloré, de couleurs joyeuses, peuplé de personnages sexués, avec une forte dimension autobiographique, très narratif, qui raconte souvent les heures et malheurs, je dirais, d'une femme dans les années 60, avec un point de vue féministe très original, un travail qui peut sembler décoratif, qui aurait été totalement exubérant all over, et finalement, pour prendre une métaphore culinaire, plutôt sucré-salé, voire pimenté.
Le cookbook de Dorothy Yannon chez JRP Éditions.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
La dernière exposition à notre sommaire, c'est celle qui est consacrée à Tommy Ungerer au Centre culturel irlandais. L'artiste, on le sait, est mort le 8 février dernier, mais il s'était investi dans le choix des 37 collages et 3 sculptures qui sont présentées aux 5 rues des Irlandais. Dans le 5e arrondissement de Paris, Tommy Ungerer, il a publié 140 livres, il a réalisé 40 000 dessins. Mais travail de collage sans doute moins connu, ça va être l'occasion de le découvrir et d'en parler ici. Avant cela, on va écouter Tommy Ungerer dans « À voix nue ». sur France Culture, interrogé par Martin Kenen.
Pour moi, chaque dessin est un défi. Chaque livre est un défi. Il faut toujours que je trouve une nouvelle formule, aussi dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'écrire. Donc, le trait change constamment. Et souvent aussi mes façons de penser. Vous savez, on n'a pas toujours raison. Il faut toujours être prêt à échanger un préjudice pour un autre, en fin de compte. Parce qu'on ne peut pas s'échapper des préjudices. Alors autant les échanger pour pouvoir ensuite les comparer, parce que d'où viennent les idées, quel est le procédé de l'idée en soi, n'est-ce pas ? Vous voyez, moi, je n'ai pas de bachot, je n'ai pas fait d'études, donc je me suis élevé moi-même. Et ce qui m'a vraiment formé, c'est une incroyable curiosité. Alors avec la curiosité, on accumule des faits, des connaissances. Et une fois qu'on a ces connaissances, avec la comparaison, on obtient des idées.
C'était Tommy Ungerer il y a quelques temps déjà, pas si longtemps que ça, dans À voix nue. Ingrid Lukegaard Ungerer donc a fait des collages depuis les années 50, mais dans l'exposition depuis les années 50 jusqu'à sa mort, parce que visiblement c'est une pratique très importante dans les dernières années. Et d'ailleurs l'exposition ne présente que des collages récents. Comment est-ce qu'on qualifierait leur style ? Parce qu'on peut donner quelques images pour donner à nos auditeurs des pistes.
Bah alors là, on a effectivement 38 collages récents qui datent de 2018, donc un an avant sa mort, qui sont tous construits un peu sur le même principe, c'est-à-dire qu'ils jouent sur une opposition très simple, deux éléments. Donc c'est des petites prises de notes comme ça, qui sont vifs comme un trait d'esprit, qui se consomment très vite. C'est un peu comme une blague en fait, ou un tour de magicien quand on comprend comment c'est fait. Bah, l'effet s'annule un peu en fait. Moi j'ai trouvé que c'était assez c'était assez simpliste. Après on sent effectivement une grande pratique de l'image. On sent qu'il a été habitué à travailler très vite dans la presse, mais du coup enfin je pense que c'est des œuvres qu'il faut quand même recontextualiser dans le sein d'une carrière beaucoup plus vaste. Bon pour donner quelques exemples, hein, on a beaucoup de baigneurs qui sautent dans le vide, qui sautent sur une terre en forme de cartographie. On a des œuvres qui sont tirées de photos d'émeutes, où on sent un peu le retour de bâton de sa position anti-américaine, hein, parce qu'on a un policier à tête de McDonald's qui tape sur un manifestant au sol avec une tête de burger. Bon, enfin, c'est des choses assez comme ça, assez simples. Voilà, on sent toute une maestria derrière, mais voilà, quand c'est libre et brut, bon oui, c'est un peu...
On reviendra sur votre sentiment. Corinne Rondeau fait une telle tête en vous écoutant parler que je me demande si elle a été au Centre culturel irlandais. J'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes images en tête, Corinne.
Et puis, parce qu'il n'y a pas que des collages de 2018, il y en a aussi de 2009. C'est vrai que c'est un choix de Tommy Ungerer qu'il faut peut-être aussi remettre en rapport, puisqu'il parle de comparaison, d'où viennent les idées, bah, des comparaisons. Donc, il a été un grand dessinateur de BD. Et que la question de l'aplat, par exemple, est très importante dans la composition qu'il fait de ses collages. Et puis, on voit aussi que majoritairement, effectivement, c'est de 2018, on voit que la mort est là. Je veux dire, il n'a pas qu'une idée, il a aussi une sensation. On commence d'ailleurs par un collage d'un homme qui descend un escalier, enfin, un bout de corps, de vieil homme de dos qui descend vers un rectangle noir, et on voit aussi tout un environnement qui est aussi la vie entre des gens qui sont obèses, donc la vie qui se consomme et qui fait éclater la consommation des corps aussi, on va dire. Il y a aussi tout un poids de l'histoire, puisqu'il y a la libération avec les femmes rasées, avec un homme qui est un FFI, mais enfin, on sent que l'histoire tourne beaucoup à l'intérieur de la tête de Ungerer, qui a été un Alsacien, qui a été quand même sur une situation frontalière qui n'a pas été simple, puisqu'il n'a jamais pu être l'homme qu'il voulait être de sa naissance. C'est pas pour rien, peut-être, qu'il vit dans un pays qui s'appelle l'Irlande pendant presque 40 ans. Donc, je trouve que c'est... ils ont une très grande efficacité, comme le montage l'est, parce qu'il est... Le photomontage a pour effet, d'une certaine manière, de ne pas taper... C'est pas le russe, on va dire, c'est plutôt le photomontage allemand qui a une manière de vouloir critiquer une certaine... avoir oui, une ironie très mordante sur les conditions de la sociologie, mais aussi du politique, des injustices, d'une sorte d'existentialisme. Voilà, ces photomontages sont prêts dans un existentialisme et dont la référence à Beckett quand même est pas non plus pour rien là.
Alors justement, référence à Beckett, l'exposition Stéphane Corin allait présenter au Centre culturel irlandais. Et on va voir de quelle façon avec vous ces références à Beckett opèrent, selon vous.
Oui, alors d'abord, moi, effectivement, j'étais ému de voir ces dernières œuvres de Tommy Ungerer. Il a pratiqué le collage depuis les années 50, mais on voit bien aussi que je pense que son trait va être moins sûr. Il est mort à 88 ans. Peut-être qu'il pouvait pas manier le dessin exactement avec la précision bien chirurgicale qui a été la sienne. Et je trouve ça toujours assez émouvant, comment un artiste continue à créer avec les moyens qui lui sont permis. Évidemment, on pense à Max Ernst, on peut penser à Hérault, on peut penser à Riquichaud, d'autres grands collagistes. Néanmoins, il utilise la photocopie. Et cette répétition, puisqu'il est très souvent dans ces collages, il y a une accumulation, en fait, donne une certaine originalité, je trouve, une esthétique de la scansion visuelle assez personnelle, je trouve. Alors effectivement, l'esprit d'Ungerer, que peut-être nos auditeurs connaissent à travers ses livres, pour enfants mais aussi pour adultes, est de toute façon assez proche de son univers, de l'univers de Beckett. Les deux sont assez proches. Chez Ungerer, il y a quand même une grande causticité, il est très macabre, libertaire, il aime le grotesque. Et comme Beckett, je pense que c'est des œuvres qui sont profondément marquées par le pessimisme, par l'humour, et aussi par ce qu'a dit un peu Corinne Rondeau en donnant quelques éléments biographiques, par c'est des citoyens du monde, c'est des gens qui sont entre plusieurs cultures et qui parlent plusieurs langues. Beckett écrivait en français, Tommy Ungerer parlait et travaillait en français, en allemand, en anglais. Je pense que c'est également un point commun. C'est aussi des artistes qui ont choisi une certaine économie de moyens. Les deux, d'ailleurs, un sens du raccourci, donc c'était comme un moyen, est également un outil esthétique, même principalement un outil esthétique, et puis une grande méfiance envers toutes les croyances, je dirais, ce qu'on voit dans l'exposition, de manière très très claire. Ils sont anticléricaux, ils ne négligent pas parfois une certaine rudesse, ils aiment malmener le trait, comme ils bousculent le langage. D'ailleurs, Beckett disait « trouver une forme qui accommode le désordre, telle est aujourd'hui la tâche de l'artiste ». Et je pense que ça pourrait être un bon résumé de cette exposition. Où il y a effectivement une série de collages qui s'appellent carrément Godot ou En attendant Godot, Waiting for Godot, où on voit des silhouettes masculines de dos dans la plupart, parce que en fait les collages sont assez bien agencés par grappes. Donc effectivement, on voit comment autour d'un même thème, finalement le caricaturiste qui est resté Tommy Ungerer cherche le bon angle, finalement l'image parfaite, et nous présente l'ensemble de ses recherches. Donc on voit ces silhouettes qui semblent chercher, attendre quelque chose, effectivement quelqu'un dans une gare, dans un bar, dans des endroits assez déshumanisés. C'est des petites silhouettes en général dans la page, même dans la mise en page, qui sont perdues dans un environnement avec lequel elles n'entrent absolument pas en relation. Et là, je trouve que justement la technique du collage est parfaitement juste pour ça, parce que c'est un collage très brutal où il cherche pas du tout à faire rentrer, comme pourrait le faire parfois même Hérault, imbriquer le personnage dans son fond, etc. Là, il y a vraiment une superposition brutale, et je trouve ça c'est un équivalent assez beau finalement du théâtre de Beckett.
Ouais, vous n'avez pas été sensible à ça, Ingrid Le Quégan ?
Mais disons que c'est vraiment, pour moi, ça s'écrit vraiment dans un autre registre où c'est les images extrêmement efficaces, mais du coup qui atteignent leur cible, quoi. Enfin, moi je trouve qu'on sent ça, qu'on sent une œuvre en fait passer à faire du dessin de presse, à faire l'illustration et qui atteint comme ça une économie de moyens qui va droit à sa cible. Mais c'est vrai que quand on nous présente ces dessins là, on peut être assez désarçonné quand même par le ton adapté, quoi. Mais je pense que c'est des œuvres qui sont faites pour circuler et qui sont au final assez adaptées peut-être à des images plus simples qu'on aurait peut-être plus l'habitude de lire sur une page de magazine ou sur un écran de téléphone, quoi. Elles ont cette qualité-là de circulation. Après, il y a deux, trois œuvres effectivement où on sent peut-être un peu plus l'étrange, où c'est une série de portes ouvertes, une série comme ça de chaises. Mais pour moi, c'est plutôt une sélection de dessins de presse et qui, dans ce registre-là, fonctionne.
Il ne m'a pas semblé voir qu'il y ait d'édition qui soit issue de cette exposition, ce qui est quand même peut-être dommage.
Je voudrais dire vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a la chance d'avoir deux expositions Ungerer gratuites en ce moment à Paris. Il faut absolument aller à la galerie Valois, Georges-Philippe et Nathalie Valois, rue de Seine, où il y a une exposition qui s'appelle Overdose, qui est un florilège d'œuvres de Ungerer sur les 50 dernières années sur le thème de l'excès. Je pense à ça parce qu'il y a une publication, très jolie publication, qui s'appelle Tommy Ungerer avec la typo du New Yorker, d'ailleurs, et dans lequel il y a des textes, des témoignages et aussi des hommages d'ailleurs des artistes de la galerie, des jeunes artistes de la galerie à Tommy Ungerer. Et ça, je trouve que c'était vraiment une très belle idée. L'exposition est magnifique. Là, elle est très très riche. Il y a une centaine d'œuvres, beaucoup de dessins. Il y a quasiment tout un mur qui est consacré à un livre mythique de Tommy Ungerer qui s'appelle The Party, qu'il a réalisé à New York et auto-édité parce qu'il n'a pas trouvé d'éditeur, et qui dénonce tout le snobisme de ces parties chic, de radical chic de New York. Et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est quasiment... oui, ça, lui, c'est 66. Et en fait, il y a le film, évidemment, de Blake Edwards, The Party, qui est de 68. Et puis, il y a le texte de Tom Wolfe, Radical Chic, de 70, qui est repris en français dans le gauchisme de Park Avenue. Et c'est un triptyque absolument sidérant de trois immenses artistes, avec un écrivain, un cinéaste et un dessinateur. Et je pense qu'on n'a jamais fait mieux pour dénoncer cette forme achevée de la société du spectacle.
Bon, nous avons un grand fan. Hein. Vous avez un mot à ajouter, Corinne Rondeau ?
Mais qu'il y a deux sculptures aussi.
Oui.
Oui, il y a des, voilà, il y a des pelles et puis il y a un paravent avec le papa et la maman. Non, mais...
Trois sculptures, des chaises aussi.
Il y a des chaises. Ah oui, les chaises. Ah oui, elles sont très très bien, ces chaises.
Trois sculptures.
Trois.
Trois sculptures, mais oui, beaucoup de choses à découvrir dans cette exposition. Alors d'une part, Tommy Ungerer, en attendant jusqu'au 5 juillet au Centre culturel irlandais, et puis jusqu'au 25 mai à la Galerie Georges Philippe et Nathalie Valois. Ça, c'est l'exposition Overdose. Et avant de conclure l'émission, Joséphine Dumoulin nous a rejoint pour le jeu de la dispute. Elle va nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse. Joséphine.
La question était: quel cinéaste iranien a coécrit le premier film de Mania Gigi présenté à la Berlinale? Et la réponse était Abbas Kiarostami.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le film Alpha, The Right to Kill de Brian P. Mendoza, qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Quelle est la question?
Pour laquelle de ses œuvres, Brian P. Mendoza a-t-il été accusé de servir le régime du président philippin actuellement au pouvoir?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Joséphine Dumoulin. Prise de son Jacques Hubert, réalisation Alexandre Fougeron. Toutes les informations à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez écouter, podcaster, réécouter, repodcaster nos émissions. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Jean-Christophe Brianchon, Étienne de Montetti et Florent Georgesco. Notre sommaire: une complication, une calamité, un amour. C'est un seul livre, hein, celui de Véronique Bizot. Le voyage du canapé lit de Pierre Jourde. Vie conjugale de Bernard Quirini. Puis un coup de cœur de Florent Georgesco pour Comment j'ai tué son père de Martin Hirsch.